Bienvenue si vous nous rejoignez maintenant. On est donc vendredi, deuxième et dernière partie de la Grande Table. Dans l'actualité des idées aujourd'hui, les aveux de la chair. 34 ans après la mort de Michel Foucault, le philosophe Frédéric Gros, notre invité, professeur à Sciences Po, fait publier chez Gallimard le quatrième et dernier tome de l'histoire de la sexualité. Œuvre commencée en 76 par Michel Foucault avec la volonté de savoir, poursuivie en 84 avec la publication des tomes 2 et 3. Puisé dans ses archives, un ensemble de textes qui fait livre où Michel Foucault analyse les liens, les rapports entre les pères de l'Église et la sexualité moderne, problématise le plaisir sexuel dans la perspective historique d'une généalogie du sujet de désir. Ce projet, il en parlait très simplement en ces termes en 1977, « Sexe et pouvoir », Michel Foucault.
Alors, je me suis demandé si cette analyse en termes tactique, stratégique et positif du pouvoir que j'avais fait à propos de la prison, si cette analyse, on ne pouvait pas la transposer à propos de la sexualité. Et si à propos de la sexualité, il ne fallait pas plutôt poser le problème. Mais qu'est-ce qu'on fait avec la sexualité? Qu'est-ce qu'on fait quand on en parle? Qu'est-ce qu'on fait quand on s'intéresse à elle? Ou qu'est-ce qu'on veut faire? À quoi ça sert de s'y intéresser? De sorte que le problème de l'interdit ne doit pas être sans doute le problème premier. Je ne veux pas dire du tout que la sexualité chez nous n'est pas interdite. Je ne veux pas dire du tout qu'elle n'est pas réprimée. Je ne veux pas dire qu'elle est permise sous toutes ses formes, sous tous ses aspects et sous toutes les conditions possibles. Mais je veux dire que l'interdit, là où il fonctionne, comme par exemple en effet l'interdit de l'inceste, ou l'interdit beaucoup plus souple des relations prénuptiales, ou l'interdit encore plus souple et encore plus laxiste des relations extra-conjugales, bon, si tous ces interdits ne sont pas des pièces à l'intérieur d'un jeu beaucoup plus complexe et beaucoup plus positif, on pourrait dire en gros que les relations de pouvoir, les contrôles sociaux, se sont emparés en effet de la sexualité, tantôt pour en parler, tantôt pour empêcher qu'on en parle, tantôt pour l'exciter, la susciter, la favoriser, tantôt au contraire pour la masquer, l'interdire. Il n'y a pas eu toute une technologie politique autour de la sexualité, et c'est cette technologie plus fondamentale que les interdits ou les permissions que j'ai voulu reconstituer.
Frédéric Gros, bonjour.
Bonjour.
La genèse de cet ultime opus est complexe, rappelez-vous, dans la préface de cette édition. On entend Michel Foucault expliquer ici les raisons et de ce cheminement et l'envie de s'atteler à ce projet, à cette entreprise de réflexion et de compréhension. Est-ce qu'il est déjà allé au bout de ce projet? Et est-ce que ce projet tel que défini là en 77 est celui qu'on va pouvoir retrouver en partie dans cette édition? Ou est-ce que le projet a beaucoup évolué en cours de route?
Il a évolué au moins sur plusieurs points. D'abord pour les séquences chronologiques choisies. Je veux dire par là qu'en 76, il s'agissait vraiment de faire et de reconstruire une généalogie de la sexualité moderne et de commencer à partir du 17e, 18e siècle et de remonter jusqu'au 19e siècle. Et c'est vrai que cette réflexion, Foucault l'a approfondie à partir du fil chrétien qu'il repère assez vite et de cette notion de chair, et qu'il va remonter jusqu'au point finalement qui est presque un point d'origine, en tout cas un point de commencement, c'est-à-dire au moment de formation même de cette notion de chair, de cette notion aussi de libido. Et il remonte très loin dans le temps. Voilà, il remonte à un point de commencement, et plutôt que de nous offrir une histoire de la sexualité moderne, il va nous donner une archéologie des formes modernes de notre sujet sexuel, oui.
Alors, pas de publication posthume, avait dit Foucault, et pourtant, ce texte est aujourd'hui publié, plus de 30 ans après sa mort, 34 ans précisément. Pourquoi ce texte fait-il pour vous exception, Frédéric Gros? En quoi est-il une pièce manquante de cet ensemble que forme l'histoire de la sexualité et qu'il fallait publier pour comprendre cette œuvre?
Alors c'est vrai que cette pièce, elle est maîtresse, elle est majeure. je voudrais dire tout de suite que c'est pas moi qui ai donné l'autorisation de publication. C'est une décision qui ne m'appartenait pas, mais j'assume d'en avoir fait l'édition et je trouve qu'effectivement c'est très important. Foucault a très bien noté dans son testament pas de publication posthume. Et c'est vrai que moi je l'entends comme le refus de laisser publier des brouillons, des esquisses, c'est-à-dire des formes inabouties de projets. Il faut bien voir que le texte qu'on donne à lire aujourd'hui est un texte qui a été donné aux éditions Gallimard pour être tapé. C'est, on part d'un manuscrit qui est tout à fait achevé, qu'il donne à taper en 82. Et en 82, au moment où Pierre Nora lui dit « alors on lance la publication », il temporise, il suspend en disant « mais Paul Venn me conseille quand même de faire précéder cette étude des Pères de l'Église d'une considération sur la sexualité chez les anciens ». Ça lui prend beaucoup de temps, il commence à corriger le tapuscrit et il n'a pas le temps de le finir. Ce que je veux dire par là, c'est que il me semble pas que ce texte puisse tomber sous la coupe de cet interdit en ceci que Foucault voulait le faire paraître. En 84, c'est au moment même de sa mort, il demande à ce que soit ajouté un prière d'inséré dans lequel il indique les aveux de la chair apparaître prochainement.
Vont arriver. Et alors, toujours pour saisir les enjeux de cette publication, Frédéric Gros, de ce quatrième tome, qu'est-ce que l'histoire de la sexualité? Comment ce quatrième tome, Les aveux de la chair, s'inscrit dans l'œuvre de Michel Foucault?
Alors d'abord, ça nous permet, je trouve, un changement de perspective assez décisif. On a raconté, et je l'ai dit moi-même pendant longtemps, que Foucault aurait fait et opéré ce qu'on appelle son retour au sujet, c'est-à-dire il déborde son analyse des pouvoirs par une analyse des formes de subjectivation, des pratiques de soi, des techniques du sujet. Et on a dit longtemps que ce retour aurait été favorisé par la redécouverte de la philosophie ancienne. On s'aperçoit aujourd'hui, en refaisant l'histoire, que c'est le christianisme, et que c'est l'étude du christianisme qui, d'une part, fait que Foucault s'oriente et déborde son analyse du pouvoir de la prison par une étude des formes de gouvernementalité, notamment de la gouvernementalité pastorale, qui le conduit précisément à poser le problème de cette gouvernementalité du sujet et la manière dont les formes du sujet constituent à la fois la cible et le noyau de résistance des grandes gouvernementalités.
Avec cette idée toujours que dans notre chair, peut-être dans notre sphère intime, cela peut être le lieu d'une reconquête du pouvoir, que ça peut passer par cet espace-là.
Ça peut passer. Alors là, on aurait la, à peu près la même ambiguïté structurelle que celle qui a été évoqué juste avant que je prenne la parole à propos du livre d'Oliven sur Mortelle Transparence, parce qu'effectivement on s'aperçoit que dans le christianisme il est beaucoup question de la publication sui, c'est-à-dire de la publication de soi, et toutes les formes, j'allais dire, de pénitence sont en même temps des formes de monstration publique de ses fautes, etc. Quand je dis ambiguïté structurelle, je veux dire par là que cette intimité, au moment où elle se constitue comme refuge privé et pli du sujet sur lui-même, elle fait aussitôt et en même temps l'objet d'une saisie par le pouvoir. C'est-à-dire que c'est indissociable. La constitution d'une intimité est indissociable pour Foucault de la prise du pouvoir. Ce sont deux événements qui sont corrélatifs, et j'allais dire, c'est peut-être un des fers de lance de cette étude, que de montrer que se connaître soi-même, c'est notre forme d'obéissance à nous.
Juste avant de donner la parole à Antoine Mercier, je voulais vous citer dans le Que sais-je que vous avez consacré à Michel Foucault, Frédéric Gros, parce que ça pose en des termes très simples et très clairs ce qu'est ce projet de l'histoire de la sexualité. Il s'agit pour lui de penser l'histoire qui mène du sujet maître de ses plaisirs de la Grèce classique au sujet moderne d'une sexualité médicalisée, en passant par le sujet hellénistique, réinscrivant les plaisirs dans une éthique du souci de soi et le sujet chrétien attentif au mouvement discursif de sa chair. En gros, l'objet de ces quatre livres, c'est de remonter aussi aux racines chrétiennes du sujet désirant convoqué par nos psychologies et psychanalyse modernes. Antoine Mercier, une question.
Oui, j'aimerais bien qu'on revienne justement sur ce passage entre les anciens, les Grecs et les premier père du christianisme, donc au début de l'ère chrétienne, parce que là, la question est de savoir s'il se passe quelque chose de nouveau relativement à cette gouvernementalité dont vous nous parlez, et de la constitution de cette intimité à partir d'un pouvoir qui se met en place. Est-ce qu'avant, il existait quelque chose de cet ordre-là, ou est-ce qu'il n'y avait pas d'intimité, ou est-ce qu'il n'y avait pas de sujet, de possibilité d'être un sujet par cette subjectivation grâce, encore une fois, à ce qui peut faire figure de pouvoir? Et est-ce qu'on peut dire donc, pour résumer ma question, que le christianisme est à l'origine de cette forme de contrôle, de pouvoir qui sera au centre de tout le travail de Foucault?
Cette question, pour moi, elle est à la fois évidemment centrale et difficile. La difficulté, qui est une difficulté beaucoup plus générale, c'est que pour nous, à partir du moment où on pense le sujet, on pense un sujet assez immédiatement psychologique, c'est-à-dire un sujet doté de formes d'intimité et un sujet qui a affaire avec son identité secrète. Je crois que tout le travail de Foucault, quand, après cet examen chrétien, il recule encore pour examiner les formes grecques, hellénistiques et romaines de subjectivation, c'est de trouver la formule d'une construction d'un soi, mais qui ne soit pas polarisé par une intimité, mais qui dessine quand même un certain volume. Et tout ce qu'il étudie à propos des exercices stoïciens, par exemple, dessine la formule d'un rapport à soi qui reste entièrement politique, parce que l'horizon politique, d'une certaine manière, il est décisif pour Foucault. C'est pas des formes de repli vers soi, des formes de constitution, de subjectivité séparée, mais c'est toujours en prise avec le politique. Sauf que chez les Grecs, c'est vrai que cette gouvernementalité de soi, c'est-à-dire la manière dont on se gouverne soi-même et dont, si on parvient à se gouverner soi-même, on se rend capable, eh bien, de gouverner la cité, prend une forme qui est beaucoup plus celle, on pourrait dire comme ça, de la liberté. Enfin, c'est-à-dire une stylisation de sa liberté qui fait qu'effectivement, il s'agit de se maîtriser, mais il s'agit pas de constituer cette intimité du désir. Et c'est vrai que cette intimité du désir, pour en finir avec, enfin pas en finir, mais disons, avec votre question, cette forme de l'intimité, elle se branche avec des formes de gouvernementalité très fortes. Et tout le secret pour Foucault consiste à savoir jusqu'à quel point dans se connaître soi-même a constitué une des formes majeures de notre obéissance à l'autre en Occident, de telle sorte que plutôt que de se demander il faut, ou de se poser la question jusqu'à quel point est-ce qu'il faut pour s'émanciper se connaître soi-même, est-ce qu'il ne faudrait pas s'émanciper de l'injonction même d'avoir à se connaître? Mais quand je dis se connaître, c'est évidemment retourner vers des replis secrets de soi-même.
Alors moi j'aimerais bien en revenir un peu au béaba pour comprendre qui sont ces pères de l'Église qu'il va lire abondamment. On est entre quoi, le deuxième et le quatrième siècle?
On est entre le deuxième et le quatrième, cinquième siècle. Ça va, mettons, des tout premiers pères de l'Église, Justin, jusqu'à Saint Augustin, en passant par Tertullien, Cassien, pour prendre les principales références.
Alors qu'est-ce que Foucault va découvrir au fil de ses lectures? Quelle rupture va-t-il mettre à jour?
Alors la rupture, on le sentait déjà dans l'extrait que vous nous avez fait entendre, consiste à dire arrêtons de penser que le christianisme est à l'origine de la tristesse de notre sexualité. Arrêtons de penser que nous avons une sexualité morose et triste et un mariage dans laquelle l'acte sexuel serait finalisé par la procréation depuis le christianisme et qu'au fond, auparavant, on aurait eu une sexualité beaucoup plus tolérante et solaire chez les Grecs. Le premier point, ça consiste à dire que c'est pas ça qui fait rupture. C'est-à-dire le christianisme n'a pas inventé l'interdit et n'a pas donné à notre sexualité la forme d'une loi et d'un interdit. Le christianisme a bouleversé notre expérience de la sexualité, c'est-à-dire la manière dont on va problématiser ce qu'il en est pour nous d'avoir un désir pour une autre personne, de ressentir ce désir et, j'allais dire, de connaître même cet acte sexuel. Et c'est cette transformation qu'il essaye de repenser à partir des textes qui peuvent nous paraître puisque vous posiez la question quand même formidablement lointain, parce que de quoi s'agit-il d'aller voir dans les règlements des premiers monastères chrétiens, par exemple chez Cassien, la manière dont on va dire à celui qui est le disciple dans ce monastère, eh bien, dès qu'une pensée te traverse, il faut que tu fasses de cette pensée le support d'un discours que tu vas adresser à l'autre, et c'est comme ça que tu obéiras parfaitement. Ou alors, autre chose, mais qui constitue quand même une espèce de rupture formidable, dès qu'une pensée te vient, plutôt que de te poser la question qui était quand même la question grecque ou stoïcienne, comme vous voudrez par excellence, de savoir est-ce que je pense, est-ce que la pensée que j'ai, est-ce qu'elle est bien rigoureuse, est-ce qu'elle est bien objective, est-ce qu'elle correspond bien au référent réel, le problème c'est de savoir mais d'où me vient cette pensée, qu'est-ce qui me l'inspire. Je veux dire par là que ce qu'induit les règles monastiques, c'est la manière dont je dois toujours me poser la question de « je pense ceci, je veux cela, mais jusqu'à quel point est-ce que quand je pense ceci ou quand je veux cela, je ne suis pas voulu ou pensé par un autre ?» Et pour faire cette épreuve, je devrais en verbaliser ces pensées. On a ici un dispositif qui est l'archéologie même, oui, du sujet analysant.
Mais c'est quand même, est-ce que c'est une gouvernementalité qui a quand même davantage, qui encadre davantage, qui ordonne davantage, qui contraint davantage, parce que vous nous dites que c'est pas effectivement le christianisme qui a inventé les interdits. Soit, il y a quand même tout un système qui, au bout du compte, conduit à une gouvernementalité très forte, peut-être, oui. peut-être en intériorisant, en faisant intérioriser le problème.
Alors, je reprends encore une fois les termes de votre débat avec... avec Denis Oliven, parce qu'il me semble que assez curieusement, enfin pour moi tout est là. Si vous parvenez à rendre les gens addicts à eux-mêmes et à leur propre manifestation de cette vérité, mais que cette manifestation de vérité, pour faire l'épreuve de sa pertinence, de son authenticité, eh bien suppose sa monstration publique, etc., vous disposez d'une formidable instance de gouvernementalité, puisqu'on va gouverner les gens par leur propre désir de se connaître eux-mêmes, de se manifester. Et je veux dire, le point où on devient, par l'addiction, prisonnier de son propre désir, fournit évidemment une prise tout à fait formidable, parce que quand je suis contraint par un autre et que j'ai une pression extérieure, etc., je peux ruminer à l'intérieur et préparer sournoisement ma revanche, ce qui signifie qu'il y a tout un travail de liberté qui se fait, tandis que là, on est dans des formes de gouvernementalité par lesquelles, précisément, c'est au moment où il est question de notre identité, de notre vérité et de notre salut que la prise la plus forte s'opère sur nous-mêmes.
Donc, en interrogeant la chair, ça peut en dire long aussi sur nous et sur nous-mêmes. Il présente la chair comme une forme de miroir de l'âme. Qu'est-ce qu'il appelle le régime des aphrodisias ?
Alors, le régime des aphrodisias, c'est précisément ce qui précède la chair. Le thème central, me semble-t-il, de ces aveux de la chair, c'est sans fausse modestie ce que je dis, me semble-t-il, parce qu'un travail d'éditeur est un travail essentiellement de fourmi, et on travaille essentiellement à la loupe, on a le nez collé sur le texte, et je veux dire, c'est pas pour autant qu'on ressent forcément les nervures principales du texte, parce qu'on traque la coquille beaucoup plus qu'autre chose. Mais ce qui me semble aujourd'hui, c'est que précisément, dans le régime des aphrodisias, qui était le régime des anciens, des grecs, il s'agissait de maîtriser cette force qu'on appelle le désir, de la maîtriser assez pour pouvoir s'en rendre maître et en éviter les excès. Mais les aphrodisias, c'est la manière dont le désir et le plaisir forment un tout qu'il faut parvenir à maîtriser. Mais c'est un bloc de naturalité en nous. Le propre de l'invention chrétienne de la libido, il faut bien voir que ce que va montrer Foucault, c'est que la grande invention du christianisme est moins la faute, le mal, le péché que la libido, c'est-à-dire cette part dans notre désir qu'on ne peut pas contrôler. Il y a tout un débat qui peut nous paraître aujourd'hui complètement décalé, baroque, monstrueux, qui consiste à se poser la question de savoir qu'en était-il des érections volontaires ou non d'Adam au paradis, qu'en était-il des rapports sexuels entre Adam et Ève et de la manière dont les excitations pouvaient se produire. Y avait-il quelque chose comme un coït au paradis pendant ce rapport sexuel ? Alors, ça peut nous sembler des choses qui sont tout à fait, encore une fois, décalées et exotiques, sauf que la démonstration de Foucault consiste à dire que, précisément, si on parvient à dire qu'il y existe une sexualité paradisiaque, on va montrer comment ce qu'apporte le péché, c'est à l'intérieur de notre désir sexuel et de notre sexualité, une part complètement immaîtrisable, qui est le moment de l'excitation et du coït, et que cette part de désobéissance, c'est-à-dire la sexualité, devient ce qui en nous désobéit, puisqu'on ne peut pas contrôler ce moment-là, et cette désobéissance est quelque chose comme le reflet de notre désobéissance première à Dieu, et tout ce volume qui se dessine quand même, qui consiste à se dire, par exemple, en centrant le problème sur la sexualité du couple marié, parce que je peux vous dire que dans les termes grecs, les aphrodisias, la sexualité du couple marié n'était absolument pas centrale, et si elle devient centrale, c'est pourquoi ? C'est parce qu'elle permet de poser la question au moment où j'accomplis cet acte, c'est-à-dire jusqu'à quel point est-ce que j'accompagne ou non cette part d'involontaire du plaisir sexuel, c'est-à-dire jusqu'à quel point est-ce que je peux rester chaste tout en faisant l'amour et jusqu'à quel point est-ce que je peux me donner comme finalité à mon acte sexuel sauver l'autre de la fornication. Toutes ces questions, j'allais dire, vont rentrer, mais pas rentrer dans l'intimité du sujet, elles vont la produire. C'est-à-dire qu'un volume va se dessiner par lequel chacun à la fois devra rendre compte de son désir et devra le travailler à partir de ses propres référents. Et c'est ce volume-là de l'intimité sexuelle qui se déploie et qui se dessine à partir de ces textes.
D'où ce découpage qui peut paraître un peu surprenant, être vierge, être mariée.
Ah oui, tout à fait, c'est ça qui est central. Foucault dit bien à un moment, au fond, le problème du christianisme, c'est pas le problème de la faute, c'est le problème de la tentation. Et le problème, être vierge, c'est quoi ? C'est pas seulement ne pas avoir de désir sexuel, c'est être amené à perpétuellement contrôler ses tentations. Et contrôler ses tentations, ça signifie que la sexualité va devenir ce qui va définir la centralité même du sujet. Au fond, ce que Foucault recherche avec le christianisme, c'est ce moment où, dans l'histoire de la subjectivité occidentale, on va dire, pour savoir qui tu es, interroge d'abord ta sexualité, parce que c'est dans le rapport que tu noues avec elle que va se précipiter ton identité. Et la précipitation de cette identité, au même moment, va signifier une prise de pouvoir.
13h21 sur France Culture. Sexe et pouvoir, c'est le terme de cette journée spéciale sur France Culture. On reçoit aujourd'hui Frédéric Gros, philosophe, qui a supervisé la publication de cet inédit, le quatrième tome de l'histoire de la sexualité de Michel Foucault. Les aveux de la chair vient de paraître chez Gallimard.
France Culture. La grande table, Olivia Jesbert.
Et à mes côtés toujours, Antoine Mercier, une question pour Frédéric Gros.
Oui, une question un peu naïve comme ça. Est-ce que finalement, Michel Foucault n'avait pas une certaine tendresse pour toutes ces positions des premiers pères de l'Église ?
On le sent effectivement fasciné. Je me suis rendu compte en éditant ce texte et en allant chercher du côté des boîtes d'archives qu'au fond, il a travaillé autant sur le christianisme que sur la période antique. Ce travail, il le mène à partir, vous l'avez rappelé, de 76, 77 jusqu'en 82. Il est fasciné par cette culture, on le sent. On sent particulièrement que par rapport à Augustin et cette immense puissance dialectique d'Augustin, il est impressionné et il trouve un partenaire à sa mesure et que Il découvre, j'allais dire, une part de son identité et de la nôtre, précisément dans ce travail. Donc, quand vous parlez de tendresse, oui, je parlerai de fascination, de tendresse aussi en ceci que Il y a une virtuosité théorique chez ces premiers pères de l'Église qui est éblouissante et dans laquelle ils plongent avec délice. Hein. Mais ce qui fait d'ailleurs que la lecture de ce texte en est rendue très difficile, parce que c'est un texte très érudit, très exigeant, et il faut avancer pas à pas.
Enfin, c'est écrit par Foucault quand même, je veux dire, ça se lit quand même très bien, évidemment, faut s'intéresser au sujet.
Entreprise, non pas de réhabilitation de ses pères de l'Église, mais d'explication, d'analyse. Est-ce qu'il fait quand même aussi directement le lien entre cette pensée et nos comportements aujourd'hui?
Non, aucun lien n'est fait directement. Je retiens quand même, avec cette idée qui est peut-être une obsession personnelle qu'il est en train d'écrire, l'archéologie de la psychanalyse, je retiens quand même la fin du cours de 1980 au Collège de France, dans laquelle il y a tout un pan de ce cours, le gouvernement des vivants, qui provient de cela. Et Foucault finit par dire à propos de Freud... Et une fois qu'il a étudié les premiers pères de l'Église, au fond, Freud n'a jamais fait que retourner le gant de l'Église. C'est une expression qui, moi, m'étonne. Je ne comprends pas ce que ça peut vouloir dire, retourner le gant de l'Église. Mais en tout cas, on sent bien qu'il montre la mise en place ici d'un dispositif de subjectivation et de pouvoir dont nous sommes encore un peu les héritiers, même s'il est... Paul Venn m'avait fait passer une lettre à propos de cette parution en me posant la question. Je crois qu'il avait raison. Au fond, Foucault m'a toujours dit il y a les aphrodisias, les plaisirs, puis la chair chrétienne, puis la sexualité. Et Paul Venn disait mais est-ce qu'aujourd'hui il n'y aurait pas le genre? C'est-à-dire qu'il est possible qu'effectivement, dans notre contemporanéité, les problématiques du genre bouleversent à nouveau complètement cette problématique classique de la sexualité. En tout cas, cette sexualité, elle a ses racines dans ses premiers pères de l'Église. Quand je dis que ses racines, ça s'est considérablement laïcisé, mais le formatage même du sujet, la manière dont on retourne à ses propres pensées et dont on peut se demander, mais au fond, quand je pense ceci, est-ce que c'est vraiment moi qui le pense ? Cette simple possibilité de dédoublement de ses propres pensées et de création d'une scène intérieure à l'intérieur de nous-mêmes, c'est le christianisme qui l'invente. Et ces inventions sont évidemment géniales et diaboliques. Il y a une très très forte présence du malin, du diable, de Satan.
Et dans cette lecture qu'il fait de la sexualité aussi, à travers les pères de l'Église, est-ce qu'il y a aussi une part de révolte? Est-ce qu'il y a aussi une dimension politique?
Alors, il y a peut-être... Si on prend le problème de la... Il faut bien voir qu'aujourd'hui, avec tous les questionnements qui se sont faits autour du harcèlement, par exemple, de la libération de la parole, l'espèce de triangle qui s'est mis en place entre la politique, l'obligation de parler et de production d'un dire vrai à propos d'un événement sexuel, entre le sexe, le dire vrai et la politique, on voit bien que ce triangle est complètement dessiné ici. J'essaye de poursuivre. Un des problèmes que pose Foucault, c'est celui du consentement, qui est évidemment capital aujourd'hui. Sauf qu'il s'agit moins du consentement à l'autre, c'est-à-dire de la forme relationnelle du consentement. Le problème aujourd'hui est jusqu'à quel point peut-on dire qu'on a pu consentir ou non au désir de l'autre, ou à la demande de plaisir de l'autre. Et Foucault montre que ce qui, dans cette subjectivité chrétienne, se constitue, c'est la question du consentement à son propre désir, du consentement à la part involontaire qu'il peut y avoir dans le désir et à cette pulsion. C'est-à-dire qu'il montre bien que cette problématique du consentement, elle est au cœur même du dispositif sexuel. C'est-à-dire, je ne suis un sujet sexuel qu'à partir du moment où je me pose la question du consentement que je peux porter ou non est bien à mon désir et à mon désir sexuel. Et pourquoi ? Parce que, je reprends votre dualité de tout à l'heure, être vierge, être marié, si on peut avoir une sexualité en tant qu'on est dans un couple marié, mais que la sexualité est frappée d'emblée du sceau et bien justement du péché originel, il faut savoir ne pas consentir à cette part maudite de la sexualité. Donc ça ouvre un volume et ça pose effectivement des questions.
C'est toujours cette idée de la chair comme lieu d'un rapport permanent de soi à soi. Peut-être Antoine, juste, qu'il y a une dernière question, comme on arrive à la fin, que j'aurais souhaité poser sur le thème de cette journée, sexe et pouvoir, et comprendre aussi, mais c'est peut-être le sens de votre question, où se pose pour lui la question de la domination, de ce rapport de domination dans la sexualité.
Eh bien,
pardon, allez-vous. Est-ce que ça allait dans ce sens ?
Non, allez-y, parce que l'on n'a plus de temps.
La règle monastique chez Cassien, on est au 4e siècle de notre ère, consiste à dire, à chaque fois que tu ressens quelque chose, tu dois le dire à un autre, et c'est comme ça que tu obéiras. C'est-à-dire que le dire vrai de notre sexe, la construction d'un dire vrai de notre sexe, et l'injonction de verbalisation est une forme de notre obéissance. Et la manière, si vous voulez, dont tout ce qu'on va appeler le pastorat dans l'Église chrétienne consistera dans la diffusion à l'ensemble de la société de ces règles très précises par lesquelles, en disant ce qu'il en est de notre désir, eh bien, on obéissait d'autant mieux.
Peut-être en une phrase, la sexualité, c'est mal, c'est le péché originel, etc. Mais en même temps, c'est quelque chose qui est nécessaire et qui est d'une façon bien. Donc, il y a tout un retournement nécessaire pour justifier ce passage entre le mal et le bien. Est-ce que
bien
c'est
sûr.
Ça qui est à l'œuvre dans le christianisme
c'est
au début ?
C'est exactement ça. Et c'est ça qui passe par le problème du consentement. C'est-à-dire qu'on use bien de la sexualité en ayant des actes sexuels dans lesquels on ne va pas consentir à la part maudite de notre sexualité, parce qu'on va finaliser l'acte sexuel par le fait que si on fait l'amour, c'est pour sauver l'autre de son incontinence.
Donc à la fin des aveux de la chair de Michel Foucault, on aura moins de mal qu'Antoine Mercier peut-être à dire, la sexualité, c'est bien.
Voilà.
C'est ça, peut-être, ce que peut être l'enseignement de cette émission. Histoire de la sexualité, tome 4, les aveux de la chair, donc par Michel Foucault. C'est un inédit qui paraît aujourd'hui aux éditions Gallimard et que venait nous présenter le philosophe Frédéric Gros. Un grand merci à vous et un grand merci à toute l'équipe de La Grande Table pour cette belle semaine, à Claire Maillot et Jean-Christophe Brianchon, à Clémence Marie et Henri Leblanc, avec l'aide très précieuse, comme chaque jour, de Bertie Bourdon et de Maxime Morin. À la réalisation aujourd'hui, Perret Legras, avec Clément Daté. Très bel après-midi à tous. Lundi, juste une petite précision, je vous dis qu'on vous retrouve en direct de Berlin à l'occasion de la Berlinale, le Festival International du Cinéma. Nous y serons avec tous nos invités. Je serai ravie de vous y retrouver. Très bel après-midi à tous.